الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله. Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui, le samedi, le 12 du mois Sha'ban de l'année 1446 de l'Hégire, correspondant au 31 janvier 2026. Nous nous retrouvons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala afin de poursuivre ensemble notre étude du livre de l'unicité de l'imam Mohammed ibn Abdel Wahhab, qu'Allah lui fasse miséricorde. On s'est rendu au 52e chapitre de ce livre que l'auteur, rahimahullah ta'ala, a intitulé « Babun la yuqalu salamu ala Allah ». Donc chapitre, on ne dit pas « Assalam » sur Allah. On ne dit pas salam à Allah. On ne passe pas salam à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, dans ce chapitre, l'auteur, rahimallah, a cité un seul hadith. Hadith Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhuma. Donc, le but de ce chapitre, c'est de montrer l'interdiction de dire assalamu ala Allah. Car c'est d'Allah qu'on demande as-salama. Car salam, ça indique salama, la préservation. C'est d'Allah subhanahu wa ta'ala que nous demandons salam. Et on ne demande pas salam pour Allah subhanahu wa ta'ala. Car quand tu passes salam à quelqu'un, ça c'est une invocation que tu lui fais. Et celui qui l'a compris comme ça, il saura directement qu'il n'est pas autorisé de le dire vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, car Allah n'a pas besoin d'invocation. Allah n'a pas besoin qu'on invoque en sa faveur. Allah, c'est lui qui est invoqué, et c'est lui qui exauce, et c'est lui qui préserve. Donc ces sens-là ne sont pas demandés pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que quand tu dis à une personne, assalamu alaykum, tu demandes à Allah de le préserver de tous les défauts et de tous les maux et de tous les manquements. Et ça, c'est pas valable vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah, il est le parfait par excellence. Il n'a pas de défauts. Il n'a pas de manquements. Par contre, ce qui est légiféré vis-à-vis d'Allah, c'est tasbih. De dire subhanallah. D'affirmer qu'Allah subhanahu wa ta'ala est exempt de tout défaut et de tout manquement. Et on ne demande pas qu'Allah soit préservé des défauts et des manquements, car il n'en a pas. Donc ça peut laisser entendre une diminution au sujet d'Allah. C'est pour ça que ce n'est pas légiféré de le dire, et même c'est interdit de le dire. C'est interdit de le dire. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il est celui qui se suffit à lui-même. Il n'a pas besoin qu'on invoque en sa faveur. On invoque en faveur de la créature, quel que soit son rang. Même le prophète, alayhi salatu wasalam. Lakin Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin d'invocation des créatures. Subhanahu wa ta'ala, il est celui qui se suffit à lui-même. Personne ne peut lui apporter de profit. Même s'il est fils de Adam, ainsi que le djinn, depuis le premier d'entre eux, jusqu'au dernier d'entre eux, sont sur le degré le plus élevé de la piété, du début jusqu'à la fin. Cela n'augmentera en rien le royaume et la souveraineté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si inversement, tous les hommes et tous les djinns, du premier jusqu'au dernier, ont le degré le plus bas ou ont le degré le plus bas ou le degré le plus élevé de la perversité et de la déviance, cela ne va diminuer en rien le royaume d'Allah subhanahu wa ta'ala et la richesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que personne ne peut apporter de profit à Allah subhanahu wa ta'ala, comme personne ne peut provoquer du mal et faire du mal à Allah subhanahu wa ta'ala. Personne ne peut faire du mal à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça que Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah a mentionné que cette expression est interdite. C'est interdit de dire salam ala Allah. Et le lien, il a mentionné également que le lien entre ce chapitre et le chapitre précédent dans lequel nous avons parlé de l'obligation d'affirmer Allah subhanahu wa ta'ala ses noms parfaits et ses attributs sublimes, ici, il montre l'interdiction de dire salamu ala Allah. L'interdiction de dire salamu ala Allah, pourquoi? Parce que ça peut laisser entendre une certaine diminution au sujet d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est exempt de tout défaut et de tout manquement. Subhanahu wa ta'ala. طيب. Il a dit في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده السلام على فلان وفلان فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول السلام على الله فإن الله هو السلام. Donc Abdullah ibn Mas'ud رضي الله عنهما dit dans ce hadith, il dit que quand ils étaient avec le messager d'Allah, il disait quoi? Il disait Assalamu ala Allah, de la part de ses serviteurs. Assalam, la préservation. À Allah, de la part de ses serviteurs. Wassalamu sur un tel et un tel. Et il passe ses salams également à un tel et un tel. Ce qui est voulu par un tel et un tel ici, ce sont les anges. Ce sont les anges. Car ceci est expliqué dans l'autre hadith où le Nabi alayhi salam leur a enseigné de dire dans Tashahud, où il a dit lui-même, Abdullah ibn Mas'ud, Afwan. Abdullah ibn Mas'ud lui-même, il a dit, on disait, Assalamu ala Allah, Assalamu ala Jibril wa Mika'il. Donc il passait salam aux anges. Et suite à cela, le prophète alayhi salam leur a enseigné, il a dit, le prophète alayhi salam nous a dit alors, ne dites pas assalam à Allah, car Allah est assalam, c'est lui-même assalam, et c'est lui qui préserve ses serviteurs. Il n'a pas besoin qu'on invoque en sa faveur afin qu'il soit préservé. Il est préservé par essence de tout manquement et de tout défaut, subhanahu wa ta'ala. Et donc cette interdiction implique que ceci n'est pas autorisé. Ceci n'est pas autorisé. Pour les raisons qui ont été citées précédemment. Car cette invocation laisse entendre que Allah subhanahu wa ta'ala a des défauts et des manquements. Et donc on demande afin qu'il soit préservé. Et ça c'est pas vrai, c'est faux. Et aussi parce que quand on t'invoque en faveur d'Allah, t'as fait l'inverse de ce qui est demandé. Allah, c'est lui qui est invoqué. Et non pas on invoque en sa faveur. Car Allah n'a besoin de personne de ses créatures. Et toutes ses créatures ont besoin de lui. Et donc le Nabi Aslam, il leur a dit, ne dites pas ça. Pourquoi? Il a cité la cause. Il a cité la cause. Il a dit, فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلَامِ. Car Allah fait partie de ses noms, As-Salam. Et Salam a deux sens. Salam, tout d'abord, c'est celui qui est préservé en lui-même, de tout défaut et de tout manquement. Subhanahu wa ta'ala. Et As-Salam, il est préservé de tout manquement et de tout défaut dans son essence, dans ses noms, dans ses attributs, dans ses actes. Subhanahu wa ta'ala, il est le parfait par excellence. Il a atteint le summum de la perfection dans tous ses noms et ses attributs. Tayyib, le deuxième sens du nom d'Allah, Salam, c'est vis-à-vis de ses serviteurs. C'est-à-dire, c'est lui qui préserve ses serviteurs, il leur accorde la préservation des défauts et des manquements et des diminutions et de ce qui est détestable. Subhanahu wa ta'ala. Donc, de dire salamu ala Allah, ça, c'est quelque chose qui ne convient pas à la grandeur et la majesté d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'il a été interdit, et c'est pour ça l'auteur, rahimallah, l'a cité dans ce chapitre, dans la dernière partie de ce livre, comme on a vu, dans laquelle il parle de certains propos, de certaines paroles qui ne sont pas autorisées. Pourquoi ? Parce qu'elles comportent un manque de adab, un manque de politesse vis-à-vis de la grandeur et la majesté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le chapitre suivant, le 53e chapitre, qu'il a intitulé « Babu qawli, Allahumma ghfirli in shi't ». Allahumma ghfirli in shi't. Donc, le fait de dire « Oh Allah, pardonne-moi si tu le veux ». Oh Allah, pardonne-moi si tu le veux. Donc, par rapport au jugement de cette expression. De dire, et ça vous l'entendez souvent, surtout chez les gens de la masse, chez l'awam, ils disent, ya Rabbi, Allah yaghfirlina, inshallah. Allah yaghfirlina, inshallah. Allah yarhamna, inshallah. Ils pensent bien faire. Alors que ça comporte une erreur qui sera mentionnée dans ce chapitre. C'est pour ça, l'auteur, rahimallah, a réservé un chapitre exclusivement à cette expression. Et à ce sujet, il a cité également un seul hadith, hadith Abi Huraira radiallahu anhu, rapporté dans les deux authentiques, l'authentique de l'imam al-Bukhari et l'authentique de l'imam Muslim, dans lequel il est expliqué pourquoi cette expression n'est pas autorisée et quel est le mal qu'elle puisse comporter, même si ce n'est pas intentionnel de la part du serviteur. Même si c'est pas voulu par le serviteur. Là, cette expression comporte un mal. Donc, dans le hadith, il a dit, في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ليعزم المسألة فَإِنَّ اللَّهَ لَا مُكْرِهَ لَهُ. Il a rapporté une autre riwaya de l'imam Muslim, du même hadith, dans laquelle il y a un rajout profitable par rapport à ce sujet, dans lequel il a dit وَلْيُعَظِّمِ الرَّغْبَةِ أَوْ وَلْيُعْظِمِ الرَّغْبَةِ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَتَعَاظَمُهُ شَيْءٌ أَعْطَاهُ. Donc, deux sagesses ont été citées dans l'ensemble de ces deux riwayas. Dans la première, selon Abu Huraira radiallahu anhu, le messager d'Allah alayhi wa sallam a dit que personne parmi vous ne dit « Oh Allah, pardonne-moi si tu veux. Oh Allah, fais-moi miséricorde si tu le veux. » Qu'il demande avec détermination, car personne ne peut contraindre Allah. Car personne ne peut contraindre Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans la riwaya de l'imam Muslim, le Nabi alayhi wa sallam a dit qu'il fasse preuve d'une grande aspiration. Car rien n'est trop grand pour Allah ne puisse le donner. Yani, rien n'est trop grand pour Allah subhanahu wa ta'ala à donner. Subhanahu wa ta'ala. طيب. Donc, Al-Qurtubi, rahimahullah, a dit dans son explication de l'authentique de l'imam muslim qui s'appelle, ou de l'mukhtasar de l'imam muslim qui s'appelle Al-Mufhim, il a dit, le messager d'Allah, alayhi wa sallam, a interdit cette parole, car ça indique une faible volonté de la part du serviteur. Ça indique une faible volonté de la part du serviteur. et qu'il n'espère pas fortement ce qu'il y a auprès d'Allah. Yani, c'est comme s'il disait, « Oh Allah, si tu veux, donne-moi. Si tu ne veux pas, c'est pas grave. Je peux m'en passer. » Ça laisse entendre ce sens-là. Également, ça indique, ça laisse entendre, yani, que ce serviteur n'est pas très attaché à l'exaucement de cette demande. Il dit, donne-moi si tu veux. Yani, ça laisse entendre, comme il a dit le Qurtubi rahimallah, il l'a dit comme ça. Il a dit, ça laisse entendre que si, oh Allah, si tu veux me donner, donne-moi. Si tu ne me donnes pas, je peux m'en passer. Et ça, c'est pas bon. Et ce, yani, car le serviteur, dans ses demandes, il doit montrer, au contraire, ce qu'on appelle l'iftiqar, ou l'ihtiyaj, ou l'ittirar. Yani, il doit montrer. Allah subhanahu wa ta'ala aime le serviteur qui insiste dans sa demande. Al-Abdul Milhah, qui insiste, qui demande à Allah avec insistance. Allah aime le serviteur qui demande à Allah du cœur et avec détermination et qui insiste et qui montre sa dépendance d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il est dépendant des faveurs et des grâces et des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala et il ne peut pas s'en passer. Le Nabi alayhi wa sallam disait dans le dua « Wa la takinni ila nafsi tarfata'in » « Allah ne m'abandonne pas à moi-même ne serait-ce que le temps d'un clin d'œil » Ça c'est celui qui connaît son créateur et qui connaît sa personne. Il ne peut pas se passer d'Allah un clin d'œil, le temps d'un clin d'œil. Allahu Akbar. Et ce serviteur, il dit, oh Allah, donne-moi si tu veux, et si tu ne veux pas, ne me donne pas. Ce n'est pas grave, c'est pareil. Donc ça laisse entendre ce mauvais sens, même si ce n'est pas voulu par le serviteur. Et comme vous savez, en islam, même si notre intention est bonne, la religion nous apprend à utiliser les expressions et à formuler ses intentions de la meilleure des façons, qui ne comporte aucune forme d'impolitesse vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas parce que ton intention est bonne que tu peux dire tout ce qui te passe par la tête. Tu t'adresses à Allah subhanahu wa ta'ala. Les gens ne feront pas comme ça s'ils s'adressent à un roi. Le roi d'un pays. Alors, que dire de celui qui s'adresse au roi suprême, le roi des rois, le vrai roi et le seul vrai, subhanahu wa ta'ala, dont la souveraineté est éternelle, Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, parmi le Qurtubi, il a exprimé ça, il a dit que montrer cette dépendance et que tu es dans une nécessité. Yani, c'est pas seulement cette demande, ça représente un besoin. T'en as besoin, mais si tu les as pas, si tu l'as pas, c'est pas grave. Non. Faut que tu montres que tu es dans une nécessité, que cette demande soit exaucée. C'est dans ces conditions-là qu'Allah t'exauce. Et il a exprimer ça par ruhu ibadati du'a. Ça, c'est l'âme. C'est même l'essence de l'adoration, de l'invocation. L'essence, l'âme de l'invocation, c'est quoi? C'est que tu demandes avec insistance, avec force, avec détermination. Et tu montres ta dépendance et ta nécessité que cette demande soit exaucée. Pour ça, Allah aime ses serviteurs. Inna Allah yuhibbu al-abd al-milhah. Et Allah n'aime pas le serviteur qui invoque une fois, deux, trois, quatre, dix, cent. Et après, il dit, Allah ne m'a pas exaucé. Il abandonne le dua. Ce qui t'aide à ne jamais abandonner le dua, c'est que tu saches que le dua en soi-même, c'est une adoration. Donc, que tu sois exaucé ou pas, l'exaucement, c'est une conséquence de cette adoration. Comme le fait d'avoir la récompense, c'est une conséquence d'avoir accompli la salat, d'avoir jeûné. Yani ce sont deux questions indépendantes. L'invocation en soi-même, c'est une adoration. Donc tu ne dois jamais arrêter l'adoration. Tu ne dois jamais arrêter la salat. Tu ne dois jamais arrêter le jeûne. Tu ne dois jamais arrêter toutes les adorations. Et également l'invocation. C'est pour ça Omar radiallahu anhu, il a une parole, subhanallah, fiqh salaf, en une phrase, il va t'exprimer tout ce qu'on peut dire en des volumes et des livres. Écoutez ce que Omar radiallahu anhu dit. Il dit "Inni la ahmilu hamma ad-du'a, inni la ahmilu hamma al-ijaba. Wa innama ahmilu hamma ad-du'a." Il dit "Je n'ai pas le souci de l'exaucement, mais j'ai le souci de l'invocation." Regarde combien de fois tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala par jour. Yani l'invocation et l'évocation, comme je dis entre parenthèses, c'est un thermomètre du niveau de ta foi. C'est une mesure infaillible de ta relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. L'invocation et l'évocation. L'invocation, c'est une mesure de ta confiance en Allah. Yani, imaginez, pour comprendre ce point, imaginez, Aïkhoa, t'as en face le roi d'un pays. Un homme extrêmement riche, extrêmement généreux. Il donne aux gens tout ce qu'ils veulent. Et t'es en face de lui. T'as eu l'opportunité d'être en face de lui. Il dit, demande-moi. Et tu sais qu'il va te donner tout ce que tu lui demandes. T'imagines combien de demandes tu vas formuler? Peut-être que tu vas limiter tes demandes parce que tu sais que la créature, quelle que soit sa fortune, quelle que soit sa richesse, il y a une limite à ne pas dépasser. Sinon, il te met dehors. Lakin Allah, il n'y a pas de limite. Allah, plus tu demandes, plus il t'aime. Et plus il donne. Lakin, regardez chacun d'entre nous, il médite sur sa personne. Combien de fois on invoque Allah subhanahu wa ta'ala, on lui demande. En général, nous, on demande à Allah qu'on est dans les situations de détresse, de difficulté, d'épreuve, hadith, tous on invoque Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala, de par sa miséricorde, il nous fait passer par des épreuves et des difficultés. Sinon, beaucoup de gens ne demanderont même pas à Allah. C'est pour ça, l'invocation, Nabi alayhi salam a dit, ad-du'a'u huwa al-ibada. C'est l'adoration. Du'a, c'est un pur tawhid. C'est tawhid pur. Et donc, Omar radiallahu anhu dit, je n'ai pas le souci de l'exaucement. Car l'exaucement est aïkhoa. Ça fait partie des attributs de la seigneurie d'Allah. C'est pas de ton ressort, exaucé ou pas exaucé. Et en plus, l'exaucement, il se fait de plusieurs manières. Il y a des exaucements que tu ne verras jamais dans ta vie. Tu les sauras quand tu vas rencontrer Allah. Ne crois pas qu'Allah t'exauce toujours en te donnant exactement ce que tu as demandé. Parce que des fois, s'il te donne ce que tu as demandé, ça sera la cause de ton égarement. Ça peut être la cause de ton apostasie. Et toi, tu le sais pas. Allah, il est plus miséricordieux envers toi-même, envers toi, que ta personne, que toi envers ta propre personne. Et que ta mère envers toi. Allah, des fois, il t'exauce en te donnant meilleur que ce que tu as demandé. Et la meilleure façon d'exaucer les serviteurs, c'est de leur réserver l'exaucement dans l'akhira. Car tout ce que Allah te donne fait dunya, il se termine avec avec la fin de ta vie. Mondaine. Lakin si Allah il te réserve ça dans l'akhira, ça va rester pour l'éternité. Lakin nous, c'est pas ce qu'on veut. On veut direct. Les flous, l'argent, les voitures, on veut maintenant. Là, notre attachement est plus grand à dunya qu'à l'akhira. Donc, Omar radiallahu anhu disait, je n'ai pas le souci et la préoccupation de l'exaucement, mais j'ai le souci et la préoccupation de l'invocation, Car si Allah il te permet de l'invoquer, c'est qu'il va t'exaucer. Si Allah il te permet de l'invoquer et de faire cette grande adoration qu'il aime énormément, c'est le summum de Tawhid, Ad-Dua. Tu lèves tes mains et tu te diriges vers Allah seul. Tu ne te diriges vers personne parmi ces créatures. Et tu lui dis, Allah, donne-moi. Et ça sort de ton cœur. Et t'insistes. Et t'as un espoir immense qu'Allah va t'exaucer. Et ça, c'est ce qui est cité dans la deuxième riwaya. Ton espoir est immense qu'Allah t'exaucera. Tu n'as pas le moindre doute que tu seras exaucé. C'est pour ça, ça aussi, ça fait partie des conditions de l'exaucement. D'avoir la certitude que tu seras exaucé. Allah exauce toutes les invocations de tous les croyants. Sauf des demandes dans lesquelles il y a des transgressions. Comme le fait de demander le paradis, de demander ça et de rentrer dans des détails. Tu demandes à Allah le paradis, le degré le plus élevé du paradis. Car si Allah il t'accorde le paradis, il t'accordera tout ce qui est dans le paradis. Ça, c'est rapporté dans un hadith. Et aussi, des demandes dans lesquelles il y a des interdits. Tu demandes qu'Allah envoie une catastrophe sur un croyant. Même si tu as fait du mal. Le Nabi ﷺ lui a dit, faites dua contre les gens de Thaqif, après l'embargo qu'ils ont fait sur Thaqif, et qui a duré longtemps, et durant lequel les compagnons ont été épuisés, très épuisés. À la fin, ils sont partis sans réussir à pénétrer et accéder et à traverser la forteresse. Et ils ont dit au messager d'Allah, invoque Allah contre eux. Il a dit, Allahumma hdi thaqifan wa'ti bihim muslimin. Oh Allah, guide les gens de Thaqif et ramène-les soumis. Et ils sont entrés en islam. Par la suite, ils sont entrés en islam, ils sont venus à Médine pour annoncer au prophète alayhi salam leur entrée en islam. Ça, c'est le messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Et aussi, le serviteur, il ne doit voir rien comme trop grand pour Allah subhanahu wa ta'ala, si jamais il l'accorde. Yani, rien que ce hadith nous permet de voir ces sens-là d'une manière très claire. Le Nabi alayhi salam, il dit, Ya ibadi, law anna awwalakum, si le premier d'entre vous, jusqu'au dernier, parmi le djinn, parmi les humains, tous, ils se mettent ensemble dans un même endroit. Et tous, ils demandent à Allah subhanahu wa ta'ala tout ce qu'ils veulent, jusqu'à ce qu'ils n'aient plus de pensée, ni de demande. Et qu'Allah leur accorde tout ce qu'ils ont demandé. Tous. Ça ne diminuera les richesses d'Allah que comme une aiguille qui est plongée dans un océan, dans une mer, et qui est retirée par la suite. Qu'est-ce qu'elle prend avec elle de l'eau de cet océan? Rien. Donc, quand tu demandes, demande à Allah yani, le maximum. Comme le Nabi nous a enseigné, il a dit, quand vous demandez à Allah le paradis, demandez-lui le Firdaus al-A'la. Si tu regardes ta personne, tu auras honte de demander le Firdaus al-A'la. Tu diras, non, je demande juste d'être sauvé de l'enfer. Si Allah peut me réduire en terre et que ce soit la fin pour moi, wallah, c'est une réussite pour moi. Lakin, quand tu regardes Allah subhanahu wa ta'ala, sa grandeur, sa miséricorde, sa générosité absolue, tu demandes Firdaus al-A'la, na'am, le degré le plus élevé du paradis, et d'être en compagnie du prophète alayhi salam dans le paradis. Hadith, ça apprend aux croyants d'avoir la grande volonté et de s'élever sur les bassesses. Comme quelqu'un qui m'a envoyé une question, est-ce que je peux lire des romans en français? Si on suppose que ces romans ne comportent aucun interdit, et que l'écrivain, il écrit, juste tu les lis pour apprendre le français ou l'améliorer ton niveau en français, ça peut être autorisé. Malgré qu'en général, un écrivain, toujours, il va exprimer ses idées, ses opinions. Il va appeler aux choses auxquelles il croit. Il n'y a pas un écrivain qui est neutre quand il écrit. Là, si on suppose qu'il n'y a rien de tout cela, ça reste autorisé. Mais Harry, pourquoi tu vas pas vers la lecture de le Coran? Pourquoi tu vas pas vers la lecture de tafsir? La lecture de l'authentique de l'imam al-Bukhari? Et je suis persuadé que quelqu'un qui demande ça, il n'a jamais lu l'authentique de l'imam al-Bukhari en entier. Pourquoi tu... imagine, on te dit fais ce travail et tu n'auras rien. Et fais le même travail et je te donne 100 000 euros. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui a sa raison, toute sa raison, qui va faire le même travail pour ne rien prendre à la fin? On parle pas de bénévolat, fi sabilillah, pour aider. Ça, c'est encore plus de valeur que les 100 000 euros. Lakin, si c'est une gratuité comme ça, il n'y a rien au bout. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui a l'aql, qui va faire ça, comme ça, gratuitement, dans le vent, dans le vide, et laisser le même travail qui est dans lequel il y a un salaire élevé? Bien évidemment, non. Hadao. Il y a des choses, il n'y a même pas besoin des questions, il n'y a même pas besoin de les poser. Lakin, tu dois apprendre ces notions et ces valeurs de ta religion. Regardez ce hadith, il nous apprend cette valeur. D'aller vers les choses élevées. Et ça, vous l'apprenez des questions de sahaba. Sahaba, est-ce qu'ils ont posé un million de questions au prophète alayhi sallam? Non. Très peu de questions. Dans le Coran, 13 questions que sahaba ont posées au prophète alayhi sallam. Et dans la sunna, c'est rare les questions des compagnons. Mais leurs questions, c'était quoi? C'était les questions de l'élite. C'est uniquement ces questions-là. Ayyul a'mali ahabbu ila Allah. Quelles sont les œuvres les plus aimées par Allah? Cet homme a compris, qui pose cette question, il a compris qu'il y a énormément d'œuvres qui rapprochent vers Allah, subhanahu wa ta'ala, et que sa durée de vie ne lui permet pas de faire la totalité. C'est impossible. Donc, il veut choisir les meilleures des œuvres et se focaliser dessus. C'est ça leur question. Ça, c'est les questions des gens qui ont l'himma al-aliya, la forte détermination et la grande volonté. Les hommes ambitieux. Et ça, c'est une éducation que nous devons donner à nos enfants. Pourquoi tu restes toute ta vie à travailler sur une chaîne? Pourquoi t'as pas l'idée un jour de faire une entreprise? De faire ton affaire? Ceux que vous trouvez qu'ils ont une grande, qui sont très ambitieux dans le dunya, le jour où ils seront dans la religion, ils seront pareils. Et ceux qui se contentent du peu, est-ce que c'est obligatoire ou c'est sunna? Non, c'est sunna. Alors, pour lui, c'est comme si tu lui as dit ne le fais pas. Mais ça, cette mentalité n'existe pas chez Sahaba. C'est pour ça que vous ne trouverez jamais un Sahabi qui a dit au prophète, ô messager d'Allah, est-ce que c'est obligatoire ou c'est sunna? Est-ce que c'est haram ou c'est seulement détestable? Le Nabi sallam a dit ne fais pas, il est capable de ne pas faire, il ne fait pas. Il lui a dit fais, il est capable de faire, il fait. On fait le chapitre suivant, un seul hadith également, ou là vous avez des questions? Peut-être on va faire ce chapitre également. 5 minutes, je pense que ça va nous prendre 5 minutes. Et après, si vous avez une question, il nous restera un petit peu de temps encore. Taïb, dans le chapitre suivant, Babun la yaqulu abdi wa amati. La yaqulu abdi wa amati. Donc, on ne dit pas, le chapitre 54 de ce livre, on ne dit pas abdi wa amati. Mon serviteur et ma servante, ou ma servante. On ne dit pas mon serviteur ou ma servante. Et ce qui est voulu par ce chapitre, c'est de montrer qu'il n'est pas autorisé de dire c'est mon serviteur ou c'est mon esclave, c'est ma servante, en parlant d'une femme esclave. Pourquoi ? Parce que ça laisse entendre que celui qui parle est le Seigneur des mondes. Nous sommes ses serviteurs à lui. Et les femmes, ce sont les servantes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc quand tu le cites d'une manière absolue, ça laisse entendre ce sont ceux-là. Yani comme si celui qui parle, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Tout en sachant que l'homme ou la femme peut posséder un esclave, homme ou femme. Et à ce sujet, il a rapporté hadith Abi Hurayra radiyallahu anhu. Hadith Abi Hurayra radiyallahu anhu dans les deux authentiques également. Le prophète alayhi salatu wasalam a dit: La yaqul ahadukum at'im rabbak waddi rabbak وليقل سيدي ومولاي ولا يقل احدكم عبدي وامتي وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. Donc que personne d'entre vous ne dise amène à manger à ton seigneur. At'im rabbak, donne à manger à ton seigneur. Ni verse l'eau des ablutions à ton seigneur. Et qu'ils disent mon maître ou wa maulay, yani ils ont traduit par mon patron. Sayyidi wa maulay, yani c'est à peu près le même sens. Wala yaqul ahadukum, également il ne doit pas dire mon serviteur ou ma servante. Et qu'ils disent fataya, fata wa fatati wa ghulami, et qu'ils disent al fata Donc, le fata, c'est un synonyme de abdi. Fatati, c'est un synonyme de ma servante. C'est le même sens. Mais, ça ne donne pas le sens de la servitude à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la seule nuance qu'il y a entre les deux. Mais dans l'utilisation, les gens les utilisent dans le même sens. Il dit, celui-là, c'est mon esclave, abd, ou fata. Et pour la femme, on dit « abda » ou « fatat ». Et le « roulam », c'est pareil. Et le « roulam », c'est le même sens, ça se dit de l'homme ou du garçon. Cheikh Saadi, rahimahullah, a dit, yani aussi rentre dans cela, « as-sayyid ». Il y en a... وليقل سيدي ومولاي. Il dit mon maître. Il dit سيدي, mon maître à moi. ومولاي, c'est dans le même sens. Donc, Cheikh Saadi rahimahullah a dit à ce sujet que c'est recommandé de ne pas dire abdi et ne pas dire amati. C'est recommandé de ne pas les dire. Et de dire plutôt fataya wa fatati, en évitant le terme qui peut prêter à confusion. Car Allah Azza wa Jalla, dans des hadiths qudsi, vous savez, Allah Subhanahu wa Ta'ala dit Ya ibadi, il dit abdi, dans le Coran également, Allah il dit abdi, Abdullah. Donc ça s'emploie vis-à-vis d'Allah Subhanahu wa Ta'ala, cette servitude que nous avons tous vis-à-vis de notre Créateur subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça, c'est préférable de ne pas les utiliser et de préférer d'autres termes qui ne prêtent pas à cette confusion. C'est comme ça qu'a dit Cheikh Saadi rahimahullah. Il a précisé, il a dit, ce n'est pas haram de dire abdi. et que ce n'est pas haram de dire amati. C'est seulement recommandé de les éviter et d'utiliser les termes qui ne laissent pas entendre le mauvais sens. Taïb. Également, quand tu dis nourris ton Seigneur, at'im rabbak. Et ce qui est voulu, donne-lui la nourriture, passe-lui la nourriture. Quand tu demandes à un esclave de passer la nourriture à son maître, tu lui dis pas at'im rabbak. Là, quand tu dis at'im sayyidak. Sayyidak, ton maître. Maoulak, également. Et il a donné l'exemple des ablutions, c'est dans le même sens. Donc c'est autorisé de dire sayyidi de quelqu'un. Nabi Rasulallah nous a enseigné dans un hadith authentique qu'on ne doit pas dire Sayyidi à un hypocrite ou un déviant ou un pervers. Mais ça se dit d'un croyant qui a une apparence conforme à la sunna. Quelqu'un sur lequel il y a des signes apparents de déviance et de perversité. Et quelqu'un qui est connu comme être un hypocrite, on ne dit pas sidi un tel. On le dit pour les croyants, qui ont une bonne apparence et qu'on voit dans le bien, dans l'apparence. Amma le cœur, c'est Allah qui sait ce qu'il y a dans les cœurs. Le déviant, c'est pas un maître auprès d'Allah. C'est pas un sayyid. Également, on dit de personne un sayyid d'une manière absolue. Ça se dit d'Allah subhanahu wa ta'ala seul. C'est pour ça qu'il y a des savants qui voient que Sayyid, ça fait partie des noms d'Allah. On ne dit pas As-Sayyid. Car le maître absolu, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Mais on l'utilise toujours annexé à quelque chose. On dit Sayyidi. On dit Sayyid al-Bayt, le maître de la maison. Le maître Sayyid Sayyara, le maître de la voiture. Et ainsi de suite. Car les hommes ont cette siyada, d'une manière proportionnelle à leur degré. Mais sayyid d'une manière absolue, c'est uniquement Allah subhanahu wa ta'ala. Et en résumé de ce chapitre, ces termes sont à éviter. Même s'ils sont utilisés dans la langue arabe, ils sont à éviter car ça permet de fermer cette porte de confusion entre la servitude qui doit être vouée à Allah subhanahu wa ta'ala et à des créatures. Il y a une grande différence entre les deux. Et car le Seigneur d'une manière absolue, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et le maître absolu, c'est également Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pour ça qu'il a été préférable et recommandé de ne pas les utiliser avec les créatures et d'utiliser d'autres termes qui donnent le même sens voulu et qui permettent de s'éloigner du mauvais sens. Voilà par rapport à ce chapitre. Inch'Allah ta'ala, donc nous allons nous arrêter ici. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك